bientôt, le village entier, indien, blanc et entre les deux, se trouva rassemblé devant l'hôtel, en face de la quincaillerie, de l'épicerie et sur le quai de la gare ainsi qu'à l'intérieur du wigwam bar. Comme le village se réduisait à ses quelques petits magasins et à la centaine d'indiens et de bûcherons dont les maisons étaient regroupées autour de la voie ferrée, la foule n'était guère imposante. Et, comme face à tout drame, elle restait silencieuse. Le passage de la civière, qu'on avait descendu par l'étroit escalier et sur laquelle reposait le cadavre recouvert d'un drap blanc, l'air d'un gros baluchon, suscita peu d'émoi. On avait l'impression que Prudence recevait ainsi le viatique. Personne ne s'insurgea contre sa mort, alors qu'elle n'avait que 26 ans, qu'elle était enceinte et célibataire. Ce n'était pas dans les habitudes de l'endroit, ni dans celles du nord du Minnesota. De plus, on était en 1952 et il y avait la guerre en Corée. Le monde était bien trop vaste pour se préoccuper de la mort d'une jeune indienne. En vérité, personne ne s'inquiétait de savoir ce qui s'était passé ou pourquoi, de même que les gens n'aiment pas être confrontés à ce qu'ils préfèrent ignorer à leur propre sujet. De toute façon, il régnait une telle chaleur qu'on pouvait difficilement faire autre chose que rester assis en secouant la tête avec tristesse.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Lorsque Prudence meurt en pleine guerre de Corée, il n'y a pas grand monde pour s'émouvoir du suicide d'une jeune indienne, portée sur l'alcool et les brèves rencontres. Seul le vieux Félix, qu'il aimait comme sa fille, se souvient de son arrivée, l'été 42, au Pin, la belle propriété de la famille Washburn, où il était homme à tout faire. Sur les bords du lac Leech, dans le Minnesota, en bordure de la réserve Ojibwe, les Pins font face à un camp de prisonniers allemands. Et le jour où Frankie, l'unique fils des Washburn, rentre de Princeton pour les vacances, un détenu s'est échappé. Frankie et son ami d'enfance, Billy, un jeune Ojibwe, se lancent à sa poursuite. Mais, tout occupés à leur tendre retrouvaille, les garçons tirent au jugé et tuent une petite fille, la sœur de Prudence. À partir de ce drame, la vie de chacun va basculer. La guerre va disperser les garçons sur les champs de bataille, les Washburn abandonner les Pins, où resteront seuls Félix et Prudence, murés dans le silence et l'attente. En 2014, l'écrivain américain David Treuer était venu nous parler de son livre « Indian Roads », formidable récit sur l'histoire des tribus indiennes à partir de l'arrivée des colons venus d'Europe, qu'il avait illustré par les propres aventures de sa famille, lui qui descend d'une mère Ojibwe et d'un père juif autrichien rescapé de la Shoah. Aujourd'hui, c'est avec un roman que David Treuer revient en France et « La vie nous emportera », traduit par Michel Lederer, pour Albin Michel. Roman d'amour dont le cœur et la passion interdite entre Frankie, le garçon de bonne famille Wasp, et Billy, le jeune indien broyé par la guerre. Mais aussi grand roman politique et social sur la mémoire occultée d'un pays qui n'a pas, loin s'en faut, et on le voit aujourd'hui encore, accepté de regarder en face les trous noirs du récit national. Toni Morrison a adoré ce livre et David Treuer est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde. Xavier Combes sera notre interprète.
Lemon-filled balls in your home. But
Bonjour David Treuer.
Hi.
Ce roman, Et la vie nous emportera, il se déroule dans le nord du Minnesota, en bordure de la réserve indienne de Leech Lake. C'est un territoire que vous connaissez bien. C'est une réserve indienne sur laquelle vous avez vous-même grandi. Et on imagine assez facilement qu'à la base de ce nouveau roman, il y a des histoires vraies que l'on vous a racontées, que vous connaissiez quand vous étiez petit, notamment celle de l'installation d'un camp de prisonniers allemands sur le territoire américain, qui est quand même une chose que l'on ignore assez souvent.
Oh yeah, I'd love to. So when I was a child, I read to escape. I read a lot about the Second World War.
J'ai beaucoup lu de choses. J'ai beaucoup lu sur la Seconde Guerre mondiale en particulier. Je pourrais dire que cette guerre a forgé ma famille. Mon père a fui le nazisme. Il s'est enfui, allé en Angleterre, puis aux États-Unis. Et il a donc vécu en tant que réfugié aux États-Unis. Et du côté de ma mère, mon grand-père et ses frères ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Et il était dans l'infanterie et il a combattu en France et en Belgique avant d'être blessé près de Aix-la-Chapelle. Donc vous voyez, ma vie a été imprégnée par la guerre. Et cependant, j'ai toujours pensé à mon lieu d'origine comme étant un lieu où rien ne se passe, où l'histoire n'a pas atterri. J'ai toujours pensé que le reste du monde ne connaissait pas mon lieu d'origine. Donc je me souviens avoir été surpris lorsque j'étais avec mon père un jour par l'un des grands lacs près du village de ma mère. Et il m'a dit, tu sais, il y avait un camp de prisonniers allemands là-bas. Et il a montré du doigt le long de la rive du lac. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, tu mens. Il a dit, mais non, pourquoi mentirais-je là-dessus? Il y avait des prisonniers allemands là, je te le dis, juste à l'orée du village de Tavers. C'était pendant la guerre. Et je dois dire que j'ai été bouleversé à cette découverte. L'histoire ne nous avait pas exclus. La guerre avait bel et bien atterri dans ma réserve et avait changé la face de ma réserve au même titre qu'elle avait changé la face du monde. Et ce jour-là, nous marchions sur la plage et j'ai vu quelque chose dans l'herbe. Et je me suis penché pour voir ce que c'était et j'ai trouvé une boucle de ceinturon. Évidemment, c'était... Ça appartenait à l'un des soldats qui était là 50 ans avant que je tombe dessus. Je l'ai encore, évidemment.
David Treuer, ce livre s'ouvre par la fin de l'histoire, en fait. Vous racontez dans le roman une histoire qui se déroule en 1942 et 1943, mais le livre s'ouvre sur une page en août 52, et c'est la mort de Prudence. Prudence est le titre en américain de votre livre. Et cette Prudence, en fait, elle vous a été inspirée par une véritable figure de femme qui est évoquée dans une biographie sur Hemingway. C'est Prudence Bolton. Pour ceux qui ont lu les livres d'Hemingway, elle passe dans Nick Adams. Prudence Bolton, c'est une indienne, Ojibwe, donc de la même tribu que celle de votre mère. Et elle n'est évoquée dans la biographie d'Hemingway que comme une jeune indienne avec qui il a eu une aventure. Et on sait juste qu'elle est morte, suicidée. Et c'est à partir de ce fantôme de femme indienne, donc négligée par l'histoire des Blancs, que vous avez eu envie d'écrire autour de cette mort, de cette vie brève.
Yes, I after I learned about her and her oui. Short tragic life.
Après que j'ai appris quels étaient les tenants et les aboutissants de la vie et de la mort de Prudence, je suis resté assez triste. Non pas parce qu'elle a eu une vie malheureuse, mais aussi parce qu'il y avait une injustice flagrante. On connaît les personnages comme Hemingway, mais cette femme-là, on ne la connaît pas. Évidemment, on a de la compassion pour elle. Par conséquent, j'ai voulu en savoir davantage sur elle. Je voulais essayer d'imaginer quelles étaient ses véritables circonstances de vie, quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle avait perdu, pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et c'est là que je trouve le plaisir de l'écriture. Je commence là où les faits s'arrêtent et où il faut faire travailler l'imagination. Les faits s'arrêtent bel et bien et il faut continuer le voyage. C'est ça que j'aime dans l'écriture.
Donc la Prudence de votre livre, David Treuer, elle arrive un jour de 1942. La guerre a commencé sur le continent, pas encore aux États-Unis, elle ne va pas tarder. Et il y a un accident de chasse et Prudence, qui est une jeune fille indienne qui s'est sauvée de foyer où on la maltraitait avec sa petite sœur, va arriver dans la famille des Washburn, des Blancs qui ont une propriété juste à côté de la réserve Ojibwe de Leech Lake. On va écouter une première lecture de votre livre. C'est le jour où Prudence arrive à Oak Pines.
Prudence n'accepta de leur confier que son nom. Elle refusa de dire d'où elle venait, de quelle école elle et sa sœur s'étaient enfuies, ou même comment celle-ci s'appelait. Les questions d'Emma demeurèrent sans réponse, tout comme l'enquête menée par le shérif n'apporta aucune lumière. Deux indiennes fugueuses et un accident de chasse, ainsi résuma-t-on la triste affaire. On entreposa le corps dans la chambre froide, le temps que durèrent les investigations du shérif, puis on l'enterra. Frankie resta cloîtré dans sa chambre et Billy avait disparu. Même Prudence ne vint pas. Installée à la fenêtre de la grande maison, elle garda les yeux braqués sur Félix tandis qu'il chargeait la dépouille de sa sœur dans une brouette, sans personne pour l'aider, il n'avait pas d'autre solution, pour aller l'inhumer sous un pin au sommet de la colline. Emma et Jonathan assistèrent en silence à l'enterrement d'une indienne par un indien. Pour une fois, l'un et l'autre ne purent que se taire. Une semaine après l'arrivée de Prudence dans une effusion de sang et la découverte du cadavre de l'Allemand sous le ponton, tout le monde était parti. Jonathan et Frankie retournèrent à Chicago, imités par Emma. David et Ernie restèrent un peu plus longtemps pour boire ensemble dans le bungalow de ce dernier, puis ils partirent à leur tour. Les provisions et les plats préparés pour la fête furent perdus. Félix les empila dans un coin du potager, et la nuit venue, ratons laveurs et moufettes se régalèrent. Au cours de l'automne, Billy rendit plusieurs fois visite à Félix. Mais rien n'était plus pareil. Il n'avait pas grand-chose à se dire. Vers Thanksgiving, Billy épousa Stella. Peu après, il s'engageait, et à Noël, il n'était plus là.
David Treuer, on se rend bien compte que Prudence garde le silence lorsqu'elle arrive dans la propriété des Washburn, mais en fait, personne ne cherche vraiment à savoir qui elle est, pourquoi elle est là, ni à lui venir en aide. En fait, Prudence est une figure d'indienne qui est comme un fantôme dans le monde des Blancs. C'est pas qu'ils sont animés de mauvaises intentions à son égard, ils vont un peu s'occuper d'elle, mais les Indiens, pour cette famille bien pensante installée dans cette région, ce ne sont pas des gens qui ont une vie, qui ont une vie à eux, qui ont une vie intérieure, qui ont des sentiments. En fait, les Indiens, dans votre livre, ils sont comme des fantômes aux yeux des Blancs. C'est bien comme ça que c'était considéré? Est-ce que c'est bien comme ça que c'est toujours considéré aujourd'hui?
J'espère que mon livre montrera qu'on doit se souvenir que s'agissant de Jonathan et de Emma, ils pensent qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir. Ils ont l'illusion d'être supérieurs. Il y a de la complaisance là-dedans. Donc, ils ne pensent même pas qu'il faille parler à Prudence ou lui poser des questions ou comprendre ses désirs ou ses besoins. Franky, par contre, lui, c'est différent. Franky, c'est un personnage qui n'a pas la même attitude. Donc, il faut voir que tous les Blancs ne sont pas sur un pied d'égalité dans mon livre. Il en va de même des Amérindiens. Tous ne sont pas les mêmes. Mais je crois que ça reflète l'époque que je décris, mais aussi notre époque actuelle. À savoir, l'Amérique est parfois si fière d'elle-même, de ses réalisations, de son rôle, de sa place dans le monde, qu'elle oublie ce qu'elle ne sait pas. Et évidemment, l'Amérique est fort ignorante et elle ne comprend pas tout. Et nous, les Amérindiens, eh bien, on passe sous un accoutrement d'un stéréotype, par exemple, ou des hypothèses erronées que les gens nous font porter. On voit bien qu'on ne s'intéresse guère à ce que nous pensons et on ne reconnaît même pas notre existence et le fait que l'on puisse penser.
Ce que vous venez de dire, David Treuer, sur la façon dont les Blancs considère les Amérindiens, c'est très bien illustré par le personnage qui, à mon avis, est le personnage le plus fort et le personnage central de ce livre. C'est Félix. Félix qui est une sorte de domestique. Il est employé par les Washburn sur leur propriété parce que, comme dit Emma Washburn, il fait ce qu'on lui demande de faire et il ne boit pas. En fait, ce sont les seules qualités que les Washburn reconnaissent à Félix. Or, Félix est un personnage très important dans le monde des Amérindiens. C'est un guerrier terrible. Il a fait la guerre de 14-18, il a tué des ennemis, il a été brave. C'est un homme qui a eu des pertes, il a perdu sa femme et sa fille au moment de l'épidémie de grippe espagnole en 1918. Et pourtant, c'est quelqu'un qui passe dans ce monde des Washburn, lui aussi comme une sorte de fantôme. On ne lui reconnaît pas toutes ses qualités. Est-ce que Félix est pour vous, dans ce roman, le personnage qui vous touche le plus? Peut-être celui qui ressemble à votre grand-père, celui qui s'était suicidé, qui ouvrait les premières pages de Indian Roads, dont nous avions parlé ensemble il y a 3 ans, cet homme qui avait été un combattant de la guerre de 14-18 et qui n'arrivait pas à retrouver une vie dans laquelle il puisse se sentir un homme?
Oh, I don't think that Felix resembles my grandfather.
Non, je dirais pas que Félix ressemble à mon grand-père.
My grandfather was talkative.
Mon grand-père était quelqu'un de bavard.
And bitter.
C'était quelqu'un d'amer.
Funny.
Il était drôle.
And he loved
mon grand-père aimait bien titiller les autres. Et c'était une façon de titiller qui faisait un peu mal aussi.
Félix, by contrast, is really
Félix quant à lui, c'est un homme assez silencieux. Il souffre dans son silence. Il est très doux. Bien qu'il ait versé tant de sang lors de la Première Guerre mondiale, et tout au long de sa vie qui a suivi, il est resté paisible. Il n'aime pas le conflit. Il ne montrait un épingle. Il y a un gars que je connais. C'est un ancien combattant du Vietnam, il est grand, c'est un costaud. Il s'appelle Joe Negwenevi. C'est un chef qui mène des cérémonies dans la tribu. Et tout comme Félix, il raconte ses anecdotes de guerre. Et ses propos sont choquants. De sa bouche, on entend ce qu'il a perpétré, de force du reste. Il n'a pas eu le choix lors de la guerre. Et lorsqu'il parle avec nous, c'est un type qui est très discret, très modeste, un homme tout à fait délicieux. Donc, vous voyez, Félix a beaucoup souffert, mais il est bourré d'émotions et il fait de son mieux pour recréer une famille avec Franky et Billy, avec les garçons, mais aussi avec Prudence, dans la mesure où elle lui permet de le faire. Mais il y a un personnage ignoré des autres et que le lecteur aura tendance à ignorer, c'est Marie. Marie, c'est une femme handicapée. Elle travaille à la cuisine avec les autres Amérindiens. Même les autres Amérindiens se moquent d'elle et l'ignorent. Elle n'est pas très jolie, Marie. Elle a une patte folle. Et Marie, c'est celle qui aura le moins de chances de réussir dans la vie. Mais de tous les personnages, elle trouve le moyen de mener une bonne vie. Elle se trouve un ami, un partenaire. Elle crée un foyer et elle protège tout cela contre un personnage violent qui fait irruption par la suite. Marie est une forme de satisfaction et de bonheur. Elle l'atteint alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour moi, Marie, c'est un personnage tout à fait important.
Ce dernier roman, David Treuillère, Et la vie nous emportera, il peut être lu par le public de différentes manières, qui parfois se confondent, mais peut-être que des lecteurs peuvent choisir de le lire, par exemple, comme un roman classique sur les États-Unis pendant la guerre. Et c'est le cas. Ça peut être aussi lu simplement comme un roman d'amour. Et puis, il y a aussi le niveau du récit anthropologique sur les différences ethniques et sur les différences sociales, et comme un livre politique, parce qu'au fond, il parle de ce qui se passe lorsqu'on est dans des races différentes et dans des milieux sociaux différents. Parce que dans votre livre, on se demande lesquelles des barrières sociales ou des barrières raciales sont les plus importantes.
Je crois que la chose la plus difficile à surmonter pour les personnages, c'est les errements des personnages. Je m'explique. Ils n'ont pas la capacité de se dire la vérité les uns aux autres. Et moi, j'ai voulu étudier la façon dont l'étiquetage racial peut en fait vous mettre dans l'ombre et mettre votre humanité complètement de côté. Billy, par exemple, c'est un Amérindien qui a des problèmes liés à son époque et au racisme ambiant. Ça fait partie du monde. Mais son plus grand défi, c'est qu'il n'a pas le droit d'aimer l'homme qu'il aime. C'est contre la loi et ça transgresserait toutes les normes sociales de son milieu. Donc, l'ironie de tout cela, c'est que son crime d'amour, entre guillemets, et ce caractère transgressif qui donne de la force et de l'humanité à Billy. Et il ne peut pas aimer l'objet de son amour. Il n'a d'autre choix que d'aimer une personne. Et évidemment, on se pose la question de savoir ce qu'il va faire avec son cœur brisé. Mais c'est en cela que c'est un être humain, avant tout. Et donc, moi, je voulais voir comment la personnalité et la politique et le bagage culturel et l'époque dans laquelle on vit, comment tout cela converge pour amener les gens à faire les choix qu'ils opèrent.
Certes, David Treuillère, dans les scènes que vous décrivez, qui sont des scènes de tendresse, d'amour entre Frankie, le rejeton des Washburn, le blanc promis à un bel avenir, et Billy, cet Amérindien qui n'intéresse personne, on sent bien que, en fait, ça se passerait entre deux étudiants de Princeton, puisque Frankie est à Princeton, et il aurait des amours étudiantes avec un garçon, un WASP, ça serait moins choquant. Ce qui est très choquant pour ses amis, c'est qu'en fait, il a une aventure homosexuelle avec un Indien. Et c'est ça le crime. Parce que lorsqu'ensuite Prudence voudra se dire fiancée à Frankie, tout le monde la regardera comme si elle est folle. Parce que, et là, c'est une femme, mais c'est une Indienne. Donc en fait, c'est vraiment la différence de race qui est le plus... Qui est le fossé que vos personnages n'arriveront jamais à franchir.
I don't know. When I was plotting the book,
Je ne sais pas. Lorsque je travaillais sur le plan du livre, et là c'est peut-être un sujet technique que j'évoque, mais lorsque je travaillais sur le plan du livre, je savais qu'il fallait qu'il y ait un secret, qu'il fallait préserver à tout prix. Quelle est la chose indicible ? Évidemment, si on la raconte, tout s'effondre. Alors, un riche et un pauvre qui tombent amoureux l'un l'autre, pourquoi pas ? Ça arrive tout le temps. Un amour entre un Amérindien et un non-Amérindien, bon, ils tombent amoureux, ils ont des enfants, bon, les gens vont être choqués pendant un an, deux ans, puis après ils laissent tomber. Aujourd'hui, c'est plus du tout choquant, hein, évidemment. Mais deux hommes amoureux l'un de l'autre, avec cette intensité des deux garçons, là, ça, c'est plus choquant que choquant. C'est indicible, personne ne peut connaître ce secret. Frankie essaye d'explorer cette facette lorsqu'il est à New York ou dans le New Jersey. Il va à des fêtes avec des homos. Il se sent mal à l'aise. Il ne se considère même pas comme homo. Il ne se voit pas en homo. Il n'a pas d'étiquette identitaire. Mais lorsqu'il quitte ses fêtes et qu'il rentre chez lui, il sait qu'il voudrait être avec Billy. C'est Billy. C'est tout. Ils sont amis depuis le début, amis proches, hein, sur un pied d'égalité. Ils ont partagé des épisodes de vie, ils ont partagé des lectures, des enthousiasmes. Ils vont bien ensemble, ils s'aiment vraiment beaucoup. Et le monde autour d'eux interdit cela. Billy est amérindien, certes, mais évidemment, cette interdiction est due à la question raciale, mais c'est surtout ce désir homosexuel à ce moment-là qui est particulièrement choquant.
I've been rambling all my life. Don't know if it's wrong or if it's right. For the ones get left behind, I'd like to ask them, maybe I might. It ain't something that I chose. The road picks you and you know there's a price that you got to pay. But that's how it goes. That's how it goes. I learned to travel very light, but my heart can get so heavy in the night that sometimes I just want to pack it in. Maybe I might. Then I hear that familiar call. Now it's time to go, and that is all there is to say. Except, are you going my way? Going my way. I'd like to ask everybody, do you think it's wrong or think it's right? Maybe someday, maybe I might. Well, so long and farewell. Maybe we'll meet again, who can tell? So I'll just say, down the road, and I wish you well, I wish you well. I'd like to ask everybody, do you think it's wrong or think it's right? Maybe someday, maybe I might. I'd like to ask everybody, do you think it's wrong or think it's right? Maybe someday, maybe I might. Maybe someday, maybe I might. I've been rambling all my life. I've been rambling.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
L'armée de l'air adorait les défilés. C'était inepte, idiot et inutile. Les élèves n'ignoraient pas qu'on les obligeait ainsi à marcher au pas, à défiler, à nettoyer et à se précipiter d'une activité à l'autre parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire d'eux, si bien qu'on les formait à tout hasard. À sa grande surprise, Francky se rendit compte que ces aberrations ne le gênaient pas. Il en avait connu tout autant, sinon plus, à Princeton. Alors qu'ici, cela lui était égal. Il n'en avait pas été de même à l'université où, pratiquement dès son arrivée, il ressentit une douleur sourde derrière les yeux qui ne le quitta pas 4 longues années durant, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Mon Dieu, comme il détesta Princeton et comme il fut heureux d'en être libéré. Libéré de l'ineptie de cet endroit, libéré de l'hilarité forcée frisant l'hystérie, libéré des clubs d'étudiants. On l'encouragea à postuler à l'Ivy Club, le plus prestigieux de Princeton, dont Jonathan avait été membre, et il le fit afin de ne pas décevoir son père. Pour entrer dans l'US Air Force, il n'avait pas eu à passer d'entretien. Pour l'Ivy Club, en revanche, il dut en subir toute une série. Des entretiens cérémonieux autour de la grande table de leur salle à manger, suivis de 2 séances de délibération qui s'étaient prolongées toute la nuit, puis de 3 semaines de soirées obligatoires. Il se plia à tout en souriant. Il but quand on lui disait de boire. Il répondit aux questions « Que fait ton père ? À quoi consacres-tu tes étés ? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'université ?» Et chaque soir, on ne manquait pas de lui rappeler l'opinion de F. Scott Fitzgerald sur le club. « Distant et terriblement aristocratique. » Il n'en était pas si sûr. Plutôt « affligeant et terriblement autochtone. » Le club se préoccupait surtout de tenir son rang. Il y entra néanmoins. Quand Emma le pressa d'essayer le Triangle Club, il s'exécuta aussi. Jonathan désirait faire de lui un gentleman et Emma un artiste. Et rien pour cela ne convenait davantage que le plus ancien groupe de comédie musicale de Princeton. Participer à tous ces clubs fut pour lui une source inépuisable de souffrance.
David Treuer, on vient d'entendre la lecture d'une page de votre livre « Et la vie nous emportera ». Ce sont les sentiments qu'éprouve Francky Washburn, qui est en fait le héros du livre aussi, puisque c'est celui qui a le droit de se rêver un avenir assez doré. Il a été envoyé à Princeton et on se rend compte qu'en fait, Francky, il n'est pas maître de son destin. Et en cela, il ressemble aux Amérindiens qui, eux non plus, ne sont pas maîtres de leur destin. Francky se contente de reproduire les rêves de ses parents. Il va aller dans les clubs que son père et sa mère ont choisis. Il est à Princeton pour leur faire plaisir. Mais en fait, c'est un homme dépossédé de son destin. Il n'est que le reflet des ambitions de ses parents. C'est assez étrange de choisir un héros de livre qui est assez flottant et qui ne décide de rien. Au fond, c'est la vie qui va décider pour lui, et notamment la guerre.
Yes, war will shape his destiny.
Oui, c'est vrai que c'est la guerre qui va forger son destin.
And it's one of these things. I mean, my family is larded with
veterans of many wars. Il y a des anciens combattants de guerres très nombreuses.
My father and my grandfather,
mon père et mon grand-père ont tous deux combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai des aînés qui ont combattu au Vietnam ou dans la guerre de Corée. Et celui qui m'a donné mon nom de petit garçon, c'était quelqu'un qui avait combattu dans la Première Guerre mondiale. Il était très vieux lorsqu'il m'a donné mon nom d'Indien. Mais vous voyez, il y a ce parti pris que l'on a, on se dit que la guerre est forcément traumatisante pour les combattants. On se dit que la guerre va vous infliger des blessures, des douleurs, des peines.
Et
moi, j'ai l'impression que le roman peut briser un petit peu ces idées, ces hypothèses que l'on prend pour acquises. En écrivant ce livre, j'ai voulu savoir si je pouvais créer un personnage pour lequel la guerre aurait une vertu thérapeutique. Et s'agissant de Frankie, c'est le cas. Frankie est enthousiaste à l'idée de partir en guerre, la fleur au fusil en quelque sorte. Il va travailler à la guerre comme navigateur dans un B-17. Donc une de ces forteresses volantes américaines. Et il y trouve beaucoup de gratification parce que c'est un travail pour lui et cela lui convient. Et Frankie n'a pas de problème particulier dans ce travail, bien qu'il sache qu'à chaque mission au-dessus de l'Allemagne,
il
est amené à tuer des centaines, voire des milliers de civils. Mais pour lui, c'est une forme d'exaltation. Je le dépeins là, tout de suite, là, comme étant une personne terrible, mais je ne le vois pas comme ça. Il vole dans le ciel, il a cette mission terrible sur les épaules, mais il se sent nécessaire, il réalise une tâche utile. Et on le comprend, il se sent compris dans la mesure où il faut qu'il soit compris. Mais en même temps, ses amis lui manquent. Et sans gâcher la fin, c'est vrai que c'est la guerre qui va forger son destin.
Mais David Troyer, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer les deux expériences guerrières, celle de Félix qui a tué, raconte-t-il aux gens de sa tribu, 17 personnes sur les champs de bataille de l'Isère en France et en Belgique pendant la Grande Guerre. Il les a tués au corps à corps et il en est hanté. Et Frankie, qui lui, du haut de son avion, va lâcher des bombes sur des milliers de civils, vraisemblablement, et de militaires, et qui en éprouve une sorte de légèreté. Ça ne le dérange pas de tuer des milliers de personnes, justement parce qu'il est très lointain. Il ne peut que les imaginer. Il ne voit pas le sang couler, à l'inverse de Félix. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui avec les drones et le fait que la guerre se mène maintenant à des milliers de kilomètres. Les combattants sont assis dans un bureau et ils envoient des bombes sur des gens qu'ils n'ont jamais vus, mais dont ils savent tous les détails de la vie. Il y a des échos incroyables dans ce livre.
Yes, it's. I think often about the problem that is America.
Oui, je pense souvent au problème qu'est l'Amérique. Pendant très longtemps, l'Amérique s'est considérée comme la solution, la réponse à l'injustice. Mais à partir des années 70, et je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, même dans l'esprit des Américains, même pour les plus patriotes des Américains, il est clair que l'Amérique n'est pas la solution d'un problème. L'Amérique est devenue un problème et personne ne connaît la solution. Cela résulte en partie de la façon dont notre pays s'est constitué cette capacité magique à perdre sa virginité de manière répétée. Elle s'imagine comme innocente, puis elle perd son innocence, puis, grâce à une stratégie, elle reprend cette innocence, puis elle la repère, et le processus se répète à l'envi. Le pays ne tire pas les leçons de son expérience. Et L'Amérique est un pays qui est prêt à détruire la vie des autres sans pour autant véritablement comprendre l'impact des actions menées en Irak, en Afghanistan, au Moyen-Orient. Et ça, c'est un problème, parce que l'Amérique est alors surprise lorsque l'on s'en prend à elle, et c'est un cycle vicieux. Peut-être qu'il serait opportun de mettre notre innocence de côté, de faire un peu d'introspection pour chercher de meilleures solutions aux problèmes que nous posons nous-mêmes et aux problèmes qui sont posés par d'autres pays aussi.
Alors, par rapport à la guerre menée par Franky du haut de sa forteresse volante, il y a l'homme qu'il aime, Billy, qui lui n'aura pas l'occasion de passer pour un héros quand il reviendra, qui fait la guerre. Il fait la guerre sur le sol, comme Félix l'a fait dans la guerre précédente. Il fera le débarquement, il poursuivra les Allemands jusqu'en Allemagne et il sera blessé. On va écouter justement la lecture de la page du livre qui raconte la blessure de Billy.
Quand, en octobre 1944, ils pénétrèrent en Allemagne, le temps devint hivernal. Un mois plus tard, ils furent repoussés dans la neige et le froid jusqu'à la crête d'Elsenborn dans les Ardennes, qu'ils tinrent pendant 10 jours contre des forces allemandes supérieures, stoppant ainsi leur avance. 10 jours passés en compagnie de Van Winkel, natif de l'Arkansas, dans un abri qu'ils avaient creusé dans le sol gelé, et recouvert de planches récupérées dans une vieille grange. Une semaine après Elsenborn, ils pénétrèrent de nouveau en Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle, et Van Winkel sauta sur une mine. Ses jambes disparurent dans un nuage de sang et de chair. Ressentant une douleur à l'épaule, Billy poussa un grognement et s'assit à côté de Van Winkel. Il constata que son bras formait un angle bizarre et qu'il avait le flanc maculé de sang. Rien de tout cela ne semblait réel. Rien de tout cela ne semblait mémorable, ni le fracas lors de l'ouverture de la porte de la barge de débarquement, ni les déflagrations incessantes des obus ou le sol qui tremblait constamment, ni même le moment où il avait tué son premier Allemand et dont il se souvenait à peine, ni le déluge de feu sur Brest ou les hennissements terrifiés des chevaux près de Saint-Lô, ni non plus les souffrances à Elsenborn, ou sa surprise en s'apercevant qu'un éclat de la mine sur laquelle avait sauté Van Winkel lui avait déchiré l'épaule. Rien, absolument rien de tout cela n'était aussi présent dans sa mémoire que le moindre détail touchant au pain. Même le temps lui avait paru merveilleux à l'époque. Les jours s'écoulaient, s'étiraient comme pour ménager la place aux jeux auxquels Franky et lui se livraient quand ils étaient jeunes. Les longues balades sur le chemin forestier, munies d'une carabine 22 pour tuer les écureuils. Mal luné, Ernie partait parfois tout seul. Franky et Billy en profitaient pour s'enfoncer plus avant dans la forêt. Il ne tirait pas souvent sur les écureuils, mais il arrivait que Billy dise « Regarde !» Il levait la carabine et visait un écureuil en haut d'un arbre qui tombait avec une lenteur infinie. Franky et lui se précipitaient, et cruels et insensibles comme tous les garçons de leur âge, ils le regardaient mourir. Franky se penchait, si proche de lui que Billy respirait l'odeur de ses cheveux. Et quelquefois, il posait une main sur le cadavre de l'écureuil et l'autre sur la nuque de Franky, comme pour diriger son attention vers le petit rongeur. Et il sentait se dégager la même chaleur, la même vie animale.
David Treuer, en fait, il y a donc cette continuité pour ces Amérindiens, Félix, puis Billy. Ils sont probablement incorporés dans la fameuse deuxième division d'infanterie, celle qui s'appelle Second to None, c'est-à-dire celle qui porte en badge une tête d'Indien, celle où sont enrôlés la plupart des Amérindiens, qui ont mené des batailles terribles pendant la guerre de 14, pendant cette Seconde Guerre mondiale, puis ensuite, on le sait, qui sont partis en Corée, puis en Afghanistan, puis en Irak. Vous connaissez beaucoup, j'imagine, de vétérans de cette seconde division.
The second division was my grandfather's.
Eh bien, cette seconde division, c'était celle de mon grand-père.
Made up of native people.
Elle n'est pas constituée que d'Amérindiens.
I don't know where they draw or used to draw.
Je ne sais pas quelles sont les ressources qui la peuplent, mais il y avait quelques Amérindiens aux côtés de mon grand-père.
The logo had been the division of this Indian
ce logo, vous l'avez dit, c'est la tête d'un Indien dans une étoile. C'est un logo qui a perduré, je ne sais pas pourquoi.
There were a few all native regiments.
Mais il a existé dans la 45e division d'infanterie plusieurs groupes d'Amérindiens qui venaient de la garde nationale. Et donc, c'était des Amérindiens qui venaient de l'Oklahoma. Et là, évidemment, il y avait une densité de Choctaw, de Chickasaw, de Cherokee, de Pawnee. Et ces gens-là se sont retrouvés en Italie pour la plupart. Bref, la seconde division, c'était celle de mon grand-père. Et je n'ai vu son uniforme qu'une seule fois. Peut-être deux fois. Une fois avant sa mort, une fois après sa mort.
Et
je me souviens. Il a dit, tiens, regarde ça. Il l'a sorti de l'armoire. Il avait encore son uniforme.
Un
tout petit uniforme. Il devait avoir 19 ans. Tout petit uniforme, minuscule. Peut-être qu'il a rétréci au fil des années dans l'armoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'était pas du tout à sa mesure. Et évidemment, l'uniforme a une longévité plus importante que la sienne.
David Treuer, à la fin de votre livre, il y a cette scène qui concerne Marie, l'Indienne boiteuse, à qui vous faisiez allusion il y a quelques instants. C'est une scène assez mystérieuse qui termine le livre, qui se déroule entre Marie et l'Allemand, l'ancien prisonnier allemand qui a décidé après la guerre de rester en Amérique. Ils ont fondé une famille, ils se protègent l'un l'autre et ils reçoivent la visite d'un juif qui vient se venger et qui se trompe d'individu. C'est une scène très mystérieuse, très belle, sur l'apaisement des douleurs, sur la réconciliation, sur l'amour aussi, trouvé en dépit des difficultés. Je me disais, en lisant ce tout petit extrait de votre livre, que, en fait, ça mériterait presque un livre à soi seul, cette scène-là. Elle arrive à la fin. Je me demande pourquoi vous l'avez mise là. Qu'est-ce qui a inspiré cette scène particulièrement?
When I was working on my first novel,
lorsque je travaillais à l'écriture de mon premier roman,
when it was still a student project,
lorsque il s'agissait d'un projet étudiant, je travaillais avec Toni Morrison, sous les auspices de Toni Morrison, et j'apportais les dernières touches au manuscrit.
Cleaning up the language,
j'étais en train de faire des petites améliorations linguistiques, j'étais en train de nettoyer en quelque sorte, et puis un jour, il y a un personnage de prêtre qui est arrivé dans mon esprit. Alors, ça semble mystérieux, ça semble mystique, pourquoi un prêtre? Mais quoi qu'il en soit, j'ai été obligé de l'intégrer dans le récit. Et ce personnage n'a guère d'impact sur le reste de l'histoire. Je ne sais pas très bien pourquoi il était là et j'étais quand même très frustré. C'était un prêtre qui vraiment frappait fort à la porte de mon roman. Donc j'ai parlé à Toni Morrison et je lui ai dit, professeur Morrison, je suis désolé, je croyais avoir fini, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Me voilà avec un prêtre. Et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas. Il faut vous faire confiance à vous-même. Il faut faire confiance à cette source d'inspiration. Donc, n'y mettez pas fin. Continuez à écrire. Faites confiance à ce qui vous arrive. Mais si vous voulez être un bon écrivain, il faut également poser des questions. Il faut trouver les raisons de cette irruption plus tard. Faites confiance à votre intuition, mais il faut vous poser la question du pourquoi aussi. Eh bien, il s'est produit la même chose pour ce livre-ci. Voici ce juif qui débarque, on le voit dans le prologue et puis on le voit à nouveau vers la fin. Il y a cette scène avec Marie et Gephardt dans leur domicile. Et là, il y a donc trois personnages dans cette scène, trois personnages qui, évidemment, ont toutes les raisons de ne pas se comprendre, de se méfier les uns des autres, s'agissant du juif et des deux autres, bien sûr. Et cependant, dans cette scène, ils arrivent à résoudre ce qui ne peut pas être résolu. Et ils sont le contraire de l'autre triangle, Billy, Prudence et Frankie, qui n'arrivent pas à résoudre leur problème à eux. Donc il y a ces deux triangles, alors il y a des interactions, certes, mais il y a ce contraste entre ces deux triangles, mais il y a aussi un équilibre. Rien de tout cela n'était clair dans mon esprit lorsque ce juif a fait irruption dans mon récit. Mais je me suis souvenu des propos de Toni Morrison, mon professeur d'il y a 25 ans. Et je me suis dit, je vais faire confiance à cela, mais je vais également me poser la question de la raison de cette irruption. Toni Morrison et moi, nous nous voyons encore environ une fois par an. Nous discutons en mangeant de la nourriture chinoise et en buvant de la vodka. On bavarde, c'est un déjeuner qui dure très longtemps. Une sorte de rituel entre elle et moi. Ça dure 6 ou 7 heures. Et généralement, bien qu'elle soit très bavarde et soit prête à continuer, moi, je suis épuisé, il faut que je fasse la sieste. Lors de la dernière rencontre, elle m'a dit, vous savez cette scène avec Marie à la fin ? J'ai adoré cette scène, m'a-t-elle dit. Et j'ai dit, bon, mais c'est grâce à vous qu'il y a eu cette scène.
Effectivement, elle vous a donné un beau cadeau, un beau conseil, David Treuillard. Est-ce que je peux vous demander, sans être indiscrète, vous avez dit tout à l'heure que c'est votre grand-père vous a donné votre nom indien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom indien et ce qu'il signifie?
I'm usually loathe to do that.
Je n'aime pas bien donner ce nom.
In his case, these are names which are kids' names.
Ce sont des noms d'enfants. Ce ne sont pas des noms que l'on garde lorsqu'on est adulte.
So he's called Miss Gwandabade, which just means redhead. I had bright red hair.
Ça veut dire rouquin, parce que à l'époque j'étais rouquin. Oui, c'est assez inoffensif comme nom.
I don't know if it was him. But I was at a powwow when I was a little kid.
Mais lorsque j'étais enfant, il me revient un souvenir là. J'étais à un powwow.
Might have been the same man, but
peut-être que c'était le même homme.
And there were some dances I didn't know.
Il y a certaines danses, rituels que je ne connaissais pas, et je disais à ma mère, maman, je ne connais pas ces danses-là. Mais elle m'a dit, eh bien, suis quelqu'un qui danse bien et fais comme lui.
So I found some man. I was tiny.
Moi, j'étais tout petit. Hein.
He was huge.
Et j'ai vu un homme immense.
And I followed behind him.
Et je l'ai suivi. J'ai essayé de faire les mêmes pas de danse que lui. Je tournais quand il tournait. Et je ne me rendais pas compte que j'étais tout à côté de lui. Je devais être 30 cm de lui. J'étais un petit peu comme ça, petit homme. Et tous les autres nous regardaient dans le bureau et tout le monde rigolait. L'homme ne me voyait pas, il ne savait pas que j'étais là. D'ailleurs, il était couronné de plumes et il était dans son costume rituel. Et puis, il finit par me voir. Et moi, je regardais mes pieds. Et puis, à la fin de la danse, lorsque les tambours se taisent, il s'est tourné et il a levé une massue et il a crié. Et moi, je devais être terrifié. Et puis, il s'est bien rigolé.
So it's a funny. I remember that story, but I don't remember much of it. I remember being scared.
C'est un petit souvenir. Je me souviens de la peur que j'ai eue.
I think of Felix when I think of that guy.
Mais quand je pense à ce gars-là, je pense à Félix, prêt à jouer avec un enfant.
Merci infiniment, David Treuillard, d'être venu nous voir aujourd'hui.
Thank you so much. Thank you.
Merci à Xavier Combes, bien entendu. Et je vous rappelle, bien sûr, que ce très beau livre dont nous venons de parler avec David Treuillard s'appelle « Et la vie nous emportera », traduit par Michel Lederer. Il est paru chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Et pour nos auditeurs qui seront dans l'Ouest dans les jours à venir, David Treuillard recevra ses lecteurs à Saint-Malo du 3 au 5 juin pour Étonnants Voyageurs. L'humeur vagabonde, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dimanche prochain aux environs de 14h. Je recevrai l'écrivain Jérôme Leroy, qui d'ailleurs sera lui aussi, mais avant, au Festival de Saint-Malo. Vous restez bien sûr sur France Inter, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter, bien entendu.